Quand on paille, on vient redonner de la nourriture à ces arbres, à ces arbustes, mais on peut aussi créer des petits habitats. Par exemple, un bon tas de feuilles avec un peu de bois, un petit tas de bois avec du feuillage dessus, ça peut être un habitat pour le hérisson.
Bienvenue dans Aubercueil, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, je reçois Adélaïde Fisch sur le podcast. Bonjour Adélaïde.
Bonjour Caroline.
Alors Adélaïde, tu n'es pas seulement paysagiste mais aussi architecte. Tu possèdes une spécialisation en urbanisme et paysage et tu enseignes ton savoir-faire en licence professionnelle d'aménagement paysager urbain depuis 2015. Tu es donc la fondatrice et gérante de l'entreprise Folk Paysage. Tu as été récompensée par le prix Talent des Cités à la fois au niveau régional et national pour ton travail novateur dans la création d'espaces de jeu au naturel et la transformation de cimetières. Et au cours de cet épisode, on va explorer l'éco-conception et l'éco-gestion du jardin, ainsi que les grands principes d'équilibre pour avoir un jardin au naturel. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Adélaïde?
Oui, c'est très bien, merci Caroline.
C'est tout bon, trop bien. Écoute, on enchaîne alors avec notre petit jeu brise-glace. Deux affirmations, une vraie, une fausse. À toi d'essayer de m'avoir.
Alors, première affirmation, le lierre est nuisible pour les arbres.
Ok. Je prends les deux, okay. Et je te dis...
Et deuxième affirmation, pour apporter la biodiversité au jardin, il faut qu'une mare fasse au moins 10 mètres carrés.
Ok. Alors là, il va falloir que... Alors je vais dire, parce que je connais plus le lierre que le concept des mares, donc je vais plus partir sur la première en disant que le lierre peut être nuisible pour les arbres, puisque potentiellement il peut l'étouffer peut-être, puisque je sais que ça pousse très très vite. Donc je vais partir là-dessus, et la mare, je sais pas du tout.
D'accord.
Combien il faut. Alors vas-y, dis-moi.
Moi, je suis désolée, je t'ai pris un peu à défaut parce que le lierre n'est pas du tout nuisible pour les arbres. C'est une idée reçue qu'on a. Et en fait, au contraire, c'est un allié pour les arbres. C'est pas un parasite, c'est un allié. Donc, quand vous en avez qui poussent sur vos arbres dans le jardin, c'est hyper intéressant. Donc, il va pousser parce qu'en fait, c'est une plante couvre-sol et grimpante. Et en fait, le lierre va aller chercher le soleil. Donc, si vous avez un arbre qui est un petit peu mal en point avant l'arrivée du lierre, il va laisser passer la lumière dans son branchage et le lierre va grimper en fait sur le tronc pour aller chercher la lumière. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va grimper sur le tronc? Il va se passer plein de choses en fait. Il va créer comme un petit manteau protecteur pour l'arbre. Il va lui éviter d'avoir des variations de température trop importantes. Donc, il va venir l'isoler des coups de chaud-froid qui peuvent être assez conséquents sur une journée. Donc, ça va l'aider. Il va, en se décomposant, il va apporter de la nourriture en pied d'arbre, donc de l'humus. Il va abriter pas mal d'insectes. Donc, qui dit insectes, dit oiseaux. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que c'est une des dernières plantes à fleurir à l'automne, et du coup il va donner un petit coup de boost pour les pollinisateurs pour qu'ils se fassent une petite réserve avant les mois difficiles. Et c'est une des premières plantes du coup à être en graines à l'hiver, janvier-février, ce qui fait que les oiseaux, ils vont aussi pouvoir trouver dans ces périodes-là qui sont un peu plus compliquées pour elles, pour eux, ils vont pouvoir trouver de quoi se nourrir. Donc en fait, c'est hyper intéressant.
C'est que du positif.
C'est que du positif. Et donc, dans les croyances populaires, on a tendance à tout de suite le supprimer en se disant qu'il va faire du mal, alors que c'est vraiment l'inverse, c'est un super allié dans le jardin. Et donc, ne le coupez pas, s'il vous plaît, quand il commence à grimper. Et s'il a vraiment envahi votre arbre, c'est que l'arbre, il est déjà très vieux. Et donc, voilà.
Ok, ça fait partie aussi du charme. Ouais. Bon, honnêtement, je t'ai pas sûre de moi, mais au moins c'est bien, tu m'auras fait un beau complément là-dessus et tu m'auras appris aussi des choses. Et du coup, alors que pour la mare, comment ça se passe?
Alors pour la mare, L'idée, là, de parler de la mare, c'est de se dire que, en fait, on a une vraie érosion de la biodiversité, que ce soit en ville, dans les campagnes, dans nos jardins. Et tout ce qu'on peut faire comme petites choses, grandes choses, avec des sous, sans sous, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Et en fait, un des super milieux qu'on peut apporter dans son jardin à moindre coût, c'est ce petit milieu de la mare. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'espace. On peut être en jardin de ville, avoir un jardin de 200 mètres carrés ou un jardin qui fait 10 000 mètres carrés. Et on trouvera toujours un petit espace pour faire ce petit milieu qui peut faire même 2 mètres carrés. Et ce sera déjà super, quoi. Et si entre voisins, tout le monde se met à faire sa petite mare, ou si dans les villes, on arrive à trouver plein de petits points d'eau comme ça, on fait déjà un grand pas pour la biodive et on crée ce qu'on appelle des petits corridors qui sont hyper importants. Donc, par exemple, si dans le jardin, vous avez un espace que vous sentez un peu plus humide, vous pouvez aller le creuser. Donc, l'idée, c'est pas de faire un trou abrupt, mais c'est de faire des petits paliers. Et même si ça fait un mètre par un mètre, ce sera déjà super. Et la profondeur, au plus profond, si vous avez 80 cm, c'est top.
Okay.
Même si on a un petit peu moins. Il faut avoir des petits paliers pour qu'on ait un cortège végétal qui s'installe. Et il faut que la mare, elle soit plutôt à l'ombre, mi-ombre, avec un peu de soleil, pour éviter que ça transpire de trop et qu'on ait trop d'évaporation d'eau. Et pour alimenter la mare, ça peut être grâce à nos gouttières, pour faire un petit chemin qui amène à la mare. Ou alors, ça peut être de façon plus artificielle, en la remplissant deux fois par saison, avec de l'eau qu'on aura récupérée dans une citerne. Et donc, l'intérêt, ça va être de retrouver, par exemple, des amphibiens, donc des grenouilles, des tritons. Mais ça peut être aussi, si on a de la chance, quelques libellules qui arrivent. Et donc, on va aussi offrir dans le jardin un point de fraîcheur pour les pollinisateurs, mais aussi la petite faune. Donc, faut pas hésiter dans sa mare à mettre une branche aussi, quelque chose, pour que si j'ai des insectes ou une petite faune qui vient au bord de la mare, elle se noie pas et qu'elle ait vraiment de quoi se rattraper au bord.
Se raccrocher.
Okay. Et dernier petit conseil pour la mare, pour que ça fonctionne bien, c'est de mettre des petits tas de pierres au soleil et un petit peu de tas de bois. Et là, vous allez... Je pense que moi, ça, je l'ai fait au jardin. J'ai fait une petite mare et je l'ai faite à l'automne et au printemps, j'avais déjà des grenouilles. Parce qu'il y a des mares à proximité et ça va être vite. Et je peux vous assurer, c'est un vrai bonheur. On se pose là, on regarde, on prend 5 minutes par jour, on s'installe et on voit les grenouilles qui apparaissent. On se met au calme, on les voit apparaître. Et c'est vraiment un cadeau.
C'est un petit coin de verdure naturelle, rien que pour soi. Quoi.
Ouais.
Trop chouette. Ok, et bah merci pour cette mise en bouche sur le jardin. On a déjà plein de petites astuces, c'est trop cool. J'aimerais peut-être qu'on redéfinisse aussi ce que ça signifie faire un jardin au naturel. Pourquoi c'est important pour l'environnement? Pourquoi c'est important de penser à faire un jardin au naturel?
D'accord. Alors bah voilà, on voit, enfin, il y a une nette érosion de la biodiversité, c'est vraiment indéniable. Donc ça touche à la fois la population des oiseaux, donc des villes et des campagnes, ça touche les pollinisateurs, les insectes, la petite faune. Et du coup, comme pour le climat, comme pour l'environnement, chaque geste qu'on fait est hyper important, et quelle que soit la taille de son jardin. Et donc pourquoi c'est important de faire un jardin naturel? Parce qu'en fait, on va redonner un habitat à des espèces qui sont en souffrance. Pourquoi on perd des espèces? Parce qu'elles n'ont plus d'habitat. Donc, par exemple, en ville, on a des oiseaux qui nichent dans les bâtiments. Quand on rénove les bâtiments, on va venir boucher sous les toitures, par exemple, toutes les petites infractuosités. Et du coup, par exemple, les hirondelles ou les martinets, qui sont vraiment des oiseaux inféodés à l'habitat, ne trouvent plus à se loger et donc quittent et ont des difficultés pour retrouver des habitats. Ça, c'est sur l'habitation. Et dans le jardin, c'est un petit peu pareil. Il faut qu'on ait à la fois des espaces de repli pour les espèces, et il faut aussi qu'elles puissent circuler dans des corridors qui permettent d'aller d'un point de là où elles vont trouver à se nourrir, à pouvoir se reproduire et à pouvoir aussi habiter. Et donc, par exemple, si on est en ville, il faut qu'on puisse laisser aux espèces, par exemple, des petits trous dans sa clôture pour qu'elle puisse circuler entre les jardins. Donc ce, là, je pense par exemple aux hérissons, qui sont vraiment des animaux aussi des villes. Et puis, il faut qu'on leur donne des petits espaces de refuge, des espaces abrités de l'activité humaine. Donc, du coup, voilà pourquoi c'est important d'avoir un jardin naturel. C'est parce que on vient favoriser, en fait, l'habitat de la faune des jardins. Et puis, aussi, ce qu'on voit avec les changements climatiques, là, et puis vraiment le climat qui commence à chauffer, c'est que plus vous avez de végétation dans votre jardin, plus vous laissez pousser aussi l'herbe, moins vous la tondez haut, et plus vous allez pouvoir lutter à votre échelle sur le climat, refroidir un peu votre jardin, rafraîchir. Et si pareil, chacun commence à rafraîchir, et parce que les collectivités sont hyper sensibles à ça, si on arrive à tous apporter cette fraîcheur dans notre jardin, on peut aussi lutter un peu à l'échelle de la ville sur ce réchauffement aussi, global.
Ok. Ouais. Chacun peut avoir aussi sa petite pierre à l'édifice là-dessus.
Et c'est pas vain, vraiment.
Ok.
On voit, comme on disait tout à l'heure, ça va hyper vite quand on laisse faire certaines choses, on en parlait, mais quand on met certaines choses en place ou qu'on laisse faire tout simplement, on s'aperçoit que on peut récupérer très vite des insectes qu'on croyait disparus ou des oiseaux, et ça va très très vite. Donc moi, je suis assez enthousiaste positif par rapport à ça, mais il faut le faire, quoi.
Oui. Bon. Il faut pouvoir mettre en place des endroits safe pour eux, ouais, et qu'ils puissent se reproduire et, comme tu dis, s'alimenter ou vivre tranquillement, quoi, ou nicher tranquillement. Justement, comment on peut transformer, du coup, alors on va arriver un peu sur un petit moment assez concret, ouais, comment on peut transformer notre jardin en espace plus respectueux de la biodiversité? C'est quoi un peu les premiers pas à franchir, les grands principes pour dire d'avoir un jardin complet, équilibré? Ouais. Peut-être que... Je ne sais pas si on peut le faire en deux fois, soit pour des grands jardins plus campagne, et peut-être la possibilité, quand on est en ville, qu'on n'a pas forcément cette possibilité-là d'avoir des grands jardins, comment on peut jouer sur les deux pans.
Ok. Alors, pour moi, peu importe la taille du jardin, on est un tout petit jardin ou un grand jardin, ce qui compte, c'est de multiplier les habitats. Et donc, multiplier les habitats, ça veut dire offrir plusieurs milieux, et donc avoir un jardin qui n'est pas simplement une pelouse qu'on va tondre de façon régulière et courte, mais ça va être de retrouver vraiment plusieurs petits espaces. Mais qu'on a un jardin de 100 mètres carrés ou de 1 hectare, c'est exactement le même principe. Donc ça, c'est la grande base. Et donc après, et puis aussi, donc, de toute façon, maintenant, c'est interdit par la loi, mais pour accueillir la biodiversité, donc avoir une diversité de milieux et surtout ne pas traiter son jardin. Parce que bah, c'est là qu'on tue aussi la biodiversité. Donc, tu veux peut-être que je donne un peu des astuces pour avoir plein de milieux?
Eh bah, si tu es chaud, avec grand plaisir.
Alors, des astuces. Donc, déjà, il y a... une chose qui est assez importante, qui est facile à faire, voilà, c'est juste, si vous ne le faites pas déjà, et que c'est juste un petit changement de vision par rapport à son jardin, c'est de laisser une petite zone de friche dans son jardin. Bon, ça va vous prendre moins de temps à tondre, ça tombe bien, mais c'est vraiment de se dire, dans mon jardin, je laisse une zone où j'interviens pas, ou très très peu, et je laisse pousser. Et là, vous allez voir, il va se passer plein de choses, parce qu'en fait, on a certaines fleurs qui vont commencer à apparaître. Du coup, tout le cortège des insectes vont suivre. Et donc, voilà, ça, c'est hyper important. Donc, votre zone de friche, elle peut faire même 5 mètres carrés. Même 5 mètres carrés, c'est déjà large. Ça peut être simplement une bande herbeuse au fond du jardin qu'on laisse pousser. Et déjà là, il va se passer des choses. C'est toujours mieux qu'une pelouse qui est complètement tendue. Ça, c'est facile à faire. Okay. Et okay. On peut rajouter, pour créer des habitats, autre chose qui est facile à faire et qui ne va pas nuire à l'esthétique de votre jardin, c'est de mettre des petits tas de bois à l'ombre qu'on va laisser se décomposer. Donc, vous faites une petite balade en forêt pour récupérer quelques branches ou alors vous demandez à votre voisin, vous avez toujours moyen de trouver. Mais des petits tas de bois à l'ombre et des petits tas de pierres ou de tuiles ou d'ardoises au soleil. Et là, on va déjà donner des conditions pour que, par exemple, les lézards y trouvent leur compte. Et d'autant plus si c'est dans un coin un peu oublié du jardin. Par exemple, votre petit tas de bois, il peut très bien être sous une haie que vous venez pas tailler régulièrement.
Oui, ça peut être un coin un peu caché, juste comme ça, c'est pas...
Ouais.
Ok.
Là, j'ai pu récupérer chez mon voisin des pierres. On a fait toutes nos bordures de massifs de fleurs avec des pierres. Et depuis qu'on a fait ça, il y a des lézards partout au jardin.
Ok.
Donc, c'est des pierres sèches qu'on a posées les unes sur les autres. Ça fait 20 cm de haut, c'est trois fois rien. Et tout de suite, l'année où on l'a fait, les lézards sont arrivés.
Ok, donc ça permet de redonner un peu vie et des terrains où ils peuvent s'abriter.
Ouais, complètement. Donc, on a parlé de la mare. Donc ça, c'est hyper important. Si on peut le faire, c'est un vrai luxe. Donc soit on le fait de façon artisanale, on voit qu'on a un petit bout de jardin qui est propice parce qu'il est un peu plus humide, et en creusant et en tassant un peu avec ses pieds ou en ramenant un peu d'argile, on peut retrouver une mare naturelle. Ou alors on peut acheter des petits dispositifs aussi thermoformés là dans les jardineries, et c'est bien aussi de pouvoir le faire comme ça. Donc ça, c'est important, la petite mare, c'est important. Il faut pouvoir apporter de l'eau pour les insectes et les oiseaux. Donc ça peut être des petites coupelles qu'on va remplir régulièrement, dans lesquelles on va mettre des galets pour que les pollinisateurs, les abeilles puissent se poser et s'abreuver. Donc ça, c'est plus pour les insectes. Et pour les oiseaux, en fait, si vous voulez qu'ils trouvent leur place dans votre jardin, on peut mettre une baignade ou un abreuvoir. Moi, je vais plutôt vous dire de favoriser la baignade plutôt que le...
C'est quoi une baignade, juste pour être sûre?
Ouais, alors une baignade, ça va être un petit réceptacle. C'est assez joli, on en trouve en jardinière, mais vous pouvez les fabriquer aussi. Et c'est un petit réceptacle dans lequel l'oiseau va pouvoir se laver.
Parce que lui, il va... Donc c'est assez profond?
Non, ça peut faire même pas 10 cm de profondeur. C'est ce qu'on trouve souvent, on a souvent des tiges, c'est souvent en métal, des tiges avec vraiment un petit réceptacle assez joli. Et ça sert à la fois pour s'abreuver, mais se baigner aussi pour les oiseaux.
D'accord.
Donc, eux, les oiseaux, pour pouvoir être à l'aise dans votre jardin, ils vont avoir besoin d'eau pour s'abreuver, se baigner. Et aussi, pour pouvoir faire leur nid, ils ont besoin d'un petit espace un peu boueux pour trouver justement de la terre pour fabriquer leur nid. Donc ça, c'est top. Et après, pour les nourrir... Nous, on ne va pas forcément conseiller les boules de graisse qu'on suspend dans les arbres, parce que ça peut être vecteur de parasites ou de maladies, puisqu'on a plusieurs espèces d'oiseaux qui vont aller manger sur le même endroit, et des fois, ils peuvent propager des maladies. Et puis, ça crée aussi des difficultés, parce que, par exemple, on a des populations de mésanges où les mâles vont aller manger que ces boules de graisse-là. Ils vont s'empâter, parce que du coup, ils vont avoir plus de facilité à manger. Et les femelles vont s'éloigner de ces mâles-là, parce qu'elles se disent... Ce gros pépère-là, en fait, il a... C'est pas un bon reproducteur.
Il y a toute une chaîne de la sédition.
Voilà, la chaîne de la sédition est rompue parce que du coup, elle se dit que c'est pas un bon chasseur, c'est un mâle qui s'engraisse. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément un bon reproducteur. Donc, pour le nourrissage des oiseaux, on va être moins sur les boules de graisse, mais on peut mettre quelques graines de tournesol, par exemple, ça peut être des graines. Et la meilleure chose à faire quand on peut le faire, c'est plutôt de laisser des fleurs grainées. Par exemple, je pense au tournesol, ça peut être la bardane. Tournesol, c'est super, par exemple, pour les mésanges. C'est pas très joli au jardin d'avoir des tournesols secs, mais par contre, pour les mésanges, c'est top.
Okay.
Et comme on l'a dit, ça peut être aussi le lierre, mais ça peut être trouvé... déjà, ça les aide pas mal. Et surtout, quand on nourrit artificiellement les oiseaux comme ça, on le fait que dans les périodes compliquées pour eux. Quand c'est très gelé... Et qui vont avoir des difficultés, mais il faut pas que l'oiseau s'habitue à être nourri en permanence de façon artificielle.
Oui, artificielle et mécanique, où il a plus besoin de chasser ou de subvenir à ses propres besoins.
Ouais, complètement.
Okay.
Donc ça va être pour le nourrissage. Et pour les oiseaux, justement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre en place quand on crée son jardin de se dire que si on installe une haie dans le jardin, si on plante une haie, il faut vraiment être sur des essences variées. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'on va avoir des arbustes qui vont pouvoir nourrir les oiseaux grénivores. Ouf. On va avoir des arbustes qui vont nourrir les oiseaux frugivores aussi, qui vont manger des petits fruits ou des baies. Et puis eux, ils vont pouvoir nidifier dans ces haies, ou pour certains, nidifier au pied des haies. Donc ça, c'est important d'avoir des haies qui sont variées. Et nous, quand on fait un plan de plantation, qu'on plante des haies, on va être vigilant à les installer. Par exemple, j'ai ma clôture. J'installe ma haie suffisamment loin de ma clôture, par exemple à 1,50 m, pour laisser l'arbuste s'épanouir. Par exemple, quand nous, on fait un plan de plantation, si j'ai l'espace de 2 mètres de large pour faire cette plantation, je vais regarder, donc vous pouvez demander à votre pépiniériste, mais je vais regarder quelle essence à taille adulte va faire plutôt 2 mètres d'empattement pour pas avoir à la tailler. On n'a pas besoin de tailler chaque année ces arbustes. Certains arbustes, si on veut qu'ils fleurissent, on peut le faire, mais c'est pas du tout une obligation. L'idée, là, c'est de partir plutôt à l'anglaise et de se dire que on laisse le port libre de l'arbuste et qu'on vient tailler si les branches, au bout d'un moment, sont trop enchevêtrées, on vient tailler à l'intérieur pour que les oiseaux, justement, puissent circuler dedans, ou j'enlève le bois mort. Mais en aucun cas, on a besoin de venir tailler au cordeau comme on le voit. Ça, c'est pas du tout une obligation.
Et justement, quand on a besoin de tailler, est-ce qu'il y a des périodes de taille idéales ?
Alors, ça va dépendre du fleurissement. Donc ça va vraiment dépendre du type d'arbuste. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de venir tailler entre mi-mars et fin juillet. Parce que justement, là, on est en période de nidification. Donc là, vous venez vraiment, vraiment embêter, voire détruire certains...
Là, on perd complètement...
Ouais, mais nous, dans nos préconisations, qu'on fasse ce travail-là avec des particuliers ou des collectivités, on va vraiment travailler sur des essences qui vont être choisies pour leur développement à taille adulte. On peut revenir un peu sur les hauteurs, mais sur l'empattement, vraiment se dire qu'on laisse les arbustes s'épanouir. Un arbuste à taille adulte, c'est 8 ans.
Ok.
Donc, au bout des 8 ans, il va continuer à pousser un peu, mais il aura pris déjà son gabarit.
Sa taille.
Voilà. Et donc, on est plus sur une façon de faire à l'anglaise. Et ça fonctionne hyper bien. Et vous allez, pour le coup, retrouver de la floraison, de la fructification. Et du coup, les papillons vont arriver aussi, évidemment. Donc, ça, c'est important. Et donc, pour les haies, donc varier. Et puis, bien demander conseil à son pépiniériste. Et ne pas être que sur du persistant.
Est-ce que tu as des plantes qui seraient plus à même d'être choisies ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ?
Alors, j'ai plein de conseils là-dessus, mais par exemple, sur une haie, parce que les palettes sont très larges. En fait, nous, on va vraiment, si on parle d'arbustes ou de fleurs, de vivaces ou d'annuelles, on va vraiment choisir en fonction du jardin. Bah, ça, c'est notre savoir-faire aussi. Mais par exemple, on peut partir sur une haie. On peut mettre de la mélanchier, qui va être intéressant, parce qu'en plus, ces petites baies sont comestibles. Ça peut être des sureaux, donc ça, c'est des choses assez faciles, ça pousse très vite. On peut faire du champagne de sureaux avec, on peut vraiment l'utiliser aussi de façon nourricière, donc ça, c'est intéressant. Nous, on aime bien mettre des lilas, des viornes, des spirées. L'oranger du Mexique, ça peut être... Parce que l'oranger du Mexique, il est intéressant parce que il est persistant. Quand on le taille pas, il est odorant. Papillons l'apprécient aussi. Ça peut être de l'églantier, de l'aubépine, du charme. Le tout, c'est vraiment d'avoir nous, on a des palettes assez conséquentes.
Oui,
lavater, ébé. Mais du coup, c'est plutôt la diversité et puis de choisir le bon gabarit qui est important.
Okay.
Et après,
tout ce que tu viens de citer, excuse-moi, je te coupe. Tout ce que tu viens de citer, c'est plutôt des arbustes qui vont pouvoir vraiment se développer comme tu le précisais, quoi.
Alors, il y en a, par exemple, quand je parle de viornes, on a certaines viornes qui vont monter à 3 mètres, qui vont faire 3 mètres d'empattement. Mais dans ces viornes-là, on a des variétés qui vont être plus compactes. Enfin, en fait, à chaque fois qu'on a une essence, on a vraiment beaucoup de variétés. Et dans ces variétés-là, on arrive toujours à trouver, si on est sur un petit jardin, des variétés plus compactes. Donc là, okay. L'intérêt là, c'est vraiment de bien discuter avec son pépiniériste, ou alors nous, c'est ce qu'on fait, hein, c'est de, si vous allez en pépinière et que vous voyez des choses qui vous font de l'œil, vérifiez sur internet à taille adulte ce que ça donne. Ça, c'est important. Okay. Et puis il y a encore des végétaux qui sont vendus en pépinière comme l'herbe de la pampa qu'il faut vraiment pas installer dans son jardin. Ça peut être tentant aujourd'hui là, avec les bouquets, ça fait des grandes hampes comme des plumeaux et ça c'est hyper envahissant, invasif et on en vend encore en pépine. Donc faut être un petit peu méfiant sur ce que vous achetez.
Et justement, pourquoi ça peut être négatif par rapport à la biodiversité?
Oui,
ou c'est pas forcément...
parce que ça se ressème énormément et ça vient coloniser certains espaces et ça prend la place pour d'autres espèces et d'autres okay. essences.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, juste sur cet exemple précis, parce que souvent les pampas, on les utilise énormément en décoration oui. aussi. Ou souvent on les cueille, on les laque et on les utilise en décoration intérieure, mais c'est pas forcément un plus pour le jardin.
Non.
Quoi.
Et si vous êtes vigilant, vous verrez que sur des zones de friche un peu portuaires, vous allez les voir, on en retrouve facilement. Il y en a une qui s'est échappée d'un jardin et ça vient coloniser tout un milieu avec une plante qui est pas du tout indigène et qui vient prendre la place d'autres et du coup qui crée pas d'habitat non plus pour la faune. Donc ça prend un espace important en termes d'habitat.
Comme quoi, c'est pas anodin.
Ouais.
C'est pas anodin. Est-ce qu'il y a d'autres types d'habitats à privilégier, du coup, dans son jardin?
Ouais. Alors, par exemple, on a parlé de la bande herbeuse ou des pelouses qui peuvent être plus hautes. Ouais. On en reparlera après, je pense, dans le petit conseil intime. Et ça peut être des plantes grimpantes. Ça, c'est intéressant aussi. Ça crée des habitats. Et puis, pour votre jardin, c'est hyper joli. Et ça permet d'apporter encore... du pollen ou du nectar, donc ça c'est intéressant. Des plantes grimpantes, le paillage, c'est un vrai habitat. Donc vous êtes au jardin, vous faites vos tontes de pelouse, c'est intéressant de se dire je récupère ma tonte et je viens pailler. Donc si j'ai un petit potager sur une épaisseur de 4-5 cm, je peux mettre mon herbe et sinon je peux le mettre aussi au pied de mes haies quand j'ai des haies dans le jardin. Mais le paillage, ça peut être aussi les feuilles qu'on récupère, les feuilles d'arbres qu'on récupère, qu'on vient mettre en pied de haie, qu'on vient mettre dans le potager.
Et on est en octobre, par exemple,
voilà.
C'est un peu la période, on va avoir toutes les feuilles qui vont tomber.
Ouais.
C'est le moment pour faire ce genre de
ouais,
choses.
Et donc, quand on paille, on vient redonner de la nourriture donc à ces arbres, à ces arbustes, mais on peut aussi créer des petits habitats, par exemple... un bon tas de feuilles avec un peu de bois, un petit tas de bois avec du feuillage dessus, ça peut être un habitat pour le hérisson. Là, quand franchement, si vous avez la chance d'entendre gratter la nuit et que vous vous rendez compte que c'est une famille de hérissons qui est là, c'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur immense, quoi. Donc ça, c'est des habitats faciles à mettre en place et qui, en plus, pour vous permettent de faire quelque chose de vos feuilles. Donc après, ça peut être aussi récupérer, si vous faites un peu de taille, par exemple, je pense à la taille des framboisiers ou justement quand on parlait de branches mortes, c'est de couper en petits tronçons toutes vos tailles et d'aller les mettre en pied de haie aussi ou dans le coin du jardin où vous avez décidé de laisser en friche. Ça, c'est un super habitat. Donc ça, et puis dans les habitats, on a aussi tout ce qui est la palette végétale des plantes couvre-sol. Donc ça peut être du lierre qu'on va mettre en couvre-sol, ça peut être du géranium macrorhizum, ça peut être la petite pervenche. Et en fait, tous ces habitats-là, la consoude, l'alchémie, et tous ces habitats-là vont nous permettre d'abriter une population qui est vraiment en danger dans nos jardins, c'est les escargots par exemple.
Et quand tu dis, pour être sûr de bien comprendre et que les éditeurs comprennent aussi, quand tu dis couvre-sol, c'est-à-dire?
En fait, c'est des vivaces qu'on installe, par exemple, en pied d'arbre ou d'arbuste ou dans des massifs de fleurs et qui, comme okay. le lierre, par exemple, le lierre, c'est une couvre-sol, elle va vraiment se développer au sol et venir là où on vient désherber normalement, elle vient prendre la place et créer un beau tapis de feuilles qui peut être florifère aussi.
Et qui vont protéger, du coup, ce que tu disais, les escargots.
Ouais.
Les...
les oiseaux peuvent nicher aussi dans ces parties-là, où on peut avoir la petite faune qui arrive à se cacher. Parce qu'en fait, quand elle voyage dans le jardin, quand elle déambule dans le jardin, elle a besoin d'espace comme ça de repli. Donc ça peut être hyper intéressant. Et puis bah du coup, ça protège nos sols aussi, parce que les sols sont hyper importants. Et donc ça vient protéger les sols de l'évapotranspiration, de la sécheresse, de la croûte de battance. Quand on est au potager et qu'on paille pas le potager, on voit en fait qu'au bout d'un certain temps, la terre sèche et devient dure comme de la pierre. Et donc l'eau ne s'infiltre même plus dans cette terre-là, donc il faut vraiment la pailler. Donc la pailler, ça peut être justement avec les feuilles, l'herbe, du broyat qu'on peut faire.
Est-ce qu'avec du fumier, des choses comme ça, on en parle parfois en jardin aussi, tout ce qui est fumier de cheval.
Tout ça, c'est très bien pour amender le potager, plutôt au potager pour le coup. Et ça, c'est très très bien aussi le fumier.
Ok, compost, donc fumier. Ça c'est aussi peut-être tout ce qui est compost et fumier aussi, quand on peut le prévoir aussi chez soi, ça peut faire aussi peut-être une sorte d'habitat aussi pour accueillir...
Ouais, complètement, la faune, pour accueillir vraiment la microfaune du sol, hyper bien, ouais, qui est malmenée aussi, hein, et donc tout ça c'est très important.
Ok. Je ne sais pas si tu as d'autres habitats à partager.
Ouais.
Autrement.
Après, les habitats à partager, ça va être les massifs de vivaces, les massifs de fleurs.
Okay.
Ça, c'est hyper bien. Et vous allez voir que si vous plantez ne serait-ce qu'un petit massif de 2 mètres carrés, il va se passer plein de choses. Donc, dans les plantes qu'on peut mettre en place, il y a toute la palette des bulbes qu'on peut mettre dans sa pelouse. Donc, ça va être des jonquilles, des muscaries, le cyclamen, ça peut être le myosotis. Enfin, on n'est pas sur la bulbe, mais on peut mettre des myosotis. Là, on est plutôt sur de l'annuel qui va se ressemer. Une jolie pelouse de myosotis au printemps, c'est hyper chouette. Donc, vous pouvez les acheter en godet, en pépinière. Et avant de se ressemer, vous pouvez acheter des graines. Et voilà, c'est magnifique. Et puis, pour le coup, c'est hyper intéressant pour les pollinisateurs. On peut faire, en parlant de couvre-sol au potager, on peut installer de la capucine. Ça, c'est hyper bien. C'est florifère. Et puis, en plus, vous pouvez récupérer les graines de capucine pour faire des capres, par exemple. Vous pouvez les mettre dans vos salades. On a la consoude dont on a parlé, mais ça, c'est vraiment hyper mellifère. Ça peut être la consoude naine ou la grande consoude. Et après, dans les vivaces. Donc, les vivaces, c'est des plantes qu'on installe et qui vont vraiment, le pied va rester en place et elles vont refleurir chaque année. Et donc, dans les vivaces faciles qu'on peut mettre au jardin, on a le gora, donc le perovskia. Okay. Je vous donne des noms, vous regarderez, mais l'anémone du Japon, toute la famille des sauges, c'est une famille qui est hyper conséquente. Et dans ces sauges-là, vous allez vraiment trouver votre bonheur parce que c'est très, très varié. Ça peut être la sauge officinale, la sauge arbustive, la sauge nemorosa, et elles vont...
Ça apporte aussi peut-être un bien-être, une senteur, juste comme ça, dans le jardin.
Et puis, ça apporte... on peut en faire des tisanes pour certaines. On a tout ce qui est verveine, donc officinale, la verveine de Buenos Aires aussi, qui est intéressante, qui va faire venir le morosphinx. C'est un petit papillon colibri là qui adore cette plante-là. Et puis après, les choses faciles, ça va être les roses trémières. Vous passez chez le voisin, la rose ou en ville, vous voyez des graines sur les roses trémières, vous les ramassez, vous les balancez dans le jardin, plutôt au niveau des murs ou des pieds de mur, dans des milieux un peu secs. Vous attendez 2 ans et puis avec beaucoup, elles arrivent facilement à s'implanter. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a toute la palette des rosiers. Enfin, il y a... C'est très conséquent.
En soi, quelque part, pour tout ce qui est bulbes, fleurs, il n'y a pas vraiment d'erreur à faire quand on en met dans son jardin ou choses comme ça.
Non. La seule erreur, c'est... Ouais, après, parce qu'en pépinière, ils en vendent un petit peu, c'est vraiment de partir sur des invasives. Mais comme le papyrus, par exemple, qui est vendu...
faut pas. Ça ressemble à quoi le papyrus?
C'est ce qu'on va mettre plutôt dans les zones humides et qu'on a plutôt à la maison, mais qu'on a tendance à mettre dans les bassins aussi. Donc ça, c'est une invasive. Donc ça, faut pas aller dessus. Mais non plus, en demandant conseil à votre pépiniériste, ça, voilà, il va vous aider. Et puis c'est vraiment de se dire aussi qu'on n'est pas obligé d'aller chez le pépiniériste, on peut demander à sa belle-mère, à son voisin, à des amis de diviser, de récupérer quelques bulles, de diviser les vivaces. On peut récupérer des graines aussi. J'ai une amie qui m'avait donné un bouquet de fleurs séchées de nigelle de Damas. Et bah, j'ai récupéré les graines que j'ai mis dans mes massifs. Et du coup, c'était il y a 2 ans. Et elle revient systématiquement. C'est une annuelle qui se ressème et qui revient. Donc chaque année, je récupère les graines et je viens les ressemer dans le jardin. Ça peut être fait avec...
C'est un cercle vertueux complètement. Aussi du fait...
Donc le coquelicot, vous envoyez des capsules, vous les récupérez, vous les balancez dans le jardin. Enfin, faut essayer aussi. Faut se dire que il va pas forcément marcher ici, mais peut-être que l'année prochaine, vous allez le ressemer ailleurs, il va se plaire. Ou alors une vivace qu'on a implantée à un endroit, c'est plus loin, bah, je peux la déplacer. C'est vraiment... Faut se dire que c'est un milieu qui est vivant et que chaque année, en fait, on peut essayer de nouvelles choses, quoi.
Il faut peut-être pas se décourager. Ça, c'est peut-être une question plus personnelle, moi qui n'ai pas forcément toujours la main très verte. Même si j'essaye de pas se décourager, d'essayer de se dire de retenter, de replanter, de revoir si ça passe ou pas.
Complètement.
Je sais pas si t'as des astuces sur ça.
Mais... Bah après, les astuces, c'est vraiment d'observer, de se dire bah elle a pas marché ici, pourquoi ? Donc de vérifier bah est-ce que c'était la bonne exposition. Mais il y a aussi le fait de communiquer. Enfin vraiment, la transmission au jardin, c'est hyper important. Donc ça peut vraiment être de discuter avec quelqu'un qui a fait son jardin et qui te dit ah bah moi j'ai du fenouil. Je pense au fenouil parce que c'est hyper intéressant pour certains oiseaux, mais papillons surtout. Et il a super bien pris, il vous en donne des graines, il pousse et puis vous tentez. Mais c'est aussi une plante qui va se ressemer énormément, le fenouil. Donc il faut être prêt, quand on en met dans son jardin, à se dire ça fait 2 mètres de haut, à taille adulte, il faut être prêt à le voir se ressemer. Il faut prendre des conseils et puis regarder un peu de votre côté, de se dire bah, est-ce que moi je suis prêt à ce que mon jardin soit envahi. Par exemple, il y a la giroflée des murailles, moi que j'adore. Quand elle se plaît, elle va venir se caler.
C'est une fleur.
C'est une fleur. Elle est annuelle, mais elle peut être. Quand elle se plaît, elle peut vraiment partir en mode vivace aussi, donc repartir du même pied chaque année. Et quand elle se plaît, elle va venir se caler un peu au niveau des pieds de mur, par exemple, ou des rocailles, de là où on va avoir un peu d'enrochement. Ça va être le cas aussi pour la valériane, l'érigeron. Moi, c'est des plantes que j'aime bien parce que du coup. C'est des vagabondes, quoi. On les met une année, et puis l'année d'après, elles vont se retrouver à un autre endroit et elles vont vraiment venir s'implanter dans le jardin à leur façon. Donc ça, c'est intéressant.
Okay.
Il y a des choses qu'on met en place et il y a des choses qui nous échappent. Et dans les choses qui nous échappent, ça peut aussi être quand on va laisser la bande herbeuse se faire dans le jardin, on va avoir la carotte sauvage qui va arriver, qui va se ressemer...
Oui, il y a des choses peut-être parfois où on se dit pourquoi ça arrive là, etc.
Ouais.
Oui, je vois. J'avais une question. Je pense que tu en avais parlé quand on s'était préparé. L'arrosage, comment ça se passe pour les jardins ? Est-ce qu'on peut auto-arroser son jardin ? Parce que là, on a pas mal de pénuries d'eau parfois, selon les régions. Est-ce que tu as des astuces là-dessus pour que ça s'auto-entretienne ?
Oui, complètement. Alors, par exemple, je vais prendre le cas de mon jardin. Donc, pour éviter l'arrosage, déjà, faut planter à la bonne saison. Donc, arbres, vivaces, on plante plutôt à l'automne.
Ok.
Tout début du printemps au grand max, parce que du coup, vous allez être sur des végétaux qui vont être justement, on va être sur une saison plus arrosée, et puis les végétaux, ils vont plutôt se concentrer sur le racinaire et donc ils vont pas avoir besoin de beaucoup d'arrosage. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est quand on plante, on arrose une bonne fois à ce moment-là, qu'on soit à l'automne ou au printemps, on arrose une bonne fois, que ce soit une vivace ou un arbuste, on arrose un bon coup. Et après, là, on parle d'implantation. Donc sur l'implantation, je vais vérifier si ma plante tire un petit peu, hop, je la réarrose un bon coup. Et je l'accompagne sur sa première année pour que au niveau de l'arrosage ça se passe bien. Et après, pour limiter l'arrosage, justement, ça va être le paillage ou le fait de mettre des couvre-sols au pied qui vont permettre en fait d'éviter que toute l'eau s'évapore du sol. En fait, quand on a les couvre-sols, l'eau, bah, voilà, ça permet de garder l'humidité. Et du coup, moi, j'arrose pas. Concrètement, j'arrose mes vivaces au démarrage ou mes arbustes, et ensuite j'arrose pas. Et même pour le potager, en fait, j'arrose pas non plus parce que j'ai paillé en fait mon potager. Et par exemple, pour mes tomates, je vais arroser peut-être. Alors, je suis en Bretagne, je suis du côté de Rennes, mais on a des, il pleut pas non plus énormément, et puis ça chauffe quand même pas mal. Et je vais arroser pour mes tomates peut-être 3-4 fois à l'implantation, mais encore. À peut-être 3 semaines d'intervalle, mais des bons coups. Et ensuite, j'arrose plus, je compte sur le paillage et sur le fait que le paillage permet de garder l'eau qui arrive dans le sol, en Bretagne. Donc, sur des régions peut-être un peu plus sèches, peut-être arroser un peu plus, mais vraiment le potager. Et normalement, les vivaces, c'est, faut être vigilant à la plantation et après, faut effectivement choisir des vivaces qui vont demander pas d'arrosage. Normalement, quand elle est bien implantée, c'est comme un arbre ou un arbuste. On n'a pas besoin d'y revenir derrière.
Ok. Oui, parce que parfois, on a peut-être cette croyance aussi de se dire la terre est ultra sèche à côté. Je pense, par exemple, dans le sud de la France, parfois, on voit la difficulté au niveau de la terre, au niveau des plantations.
Alors là,
faut se dire la croyance, il faut arroser, mais en fait, peut-être que c'est pas.
Bah, c'est plus ce qu'il faut. Alors là, si on parle du potager, il faut arroser si on veut avoir un peu de lait. Si on veut que ça fructifie, mais il faut surtout bien pailler. Et quand on arrose, c'est vraiment arroser un bon coup et pas forcément y aller les deux jours pour pas les mettre sous perfusion. Et après, l'autre chose, c'est sur les vivaces ou sur l'arbustif, quand on est dans le sud et que c'est sec et que c'est sa peine, il faut vraiment choisir les vivaces qui sont adaptées à ce milieu-là. On va pas mettre une fleur qui demande beaucoup d'eau dans un milieu qui peut pas lui en fournir naturellement. On va vraiment adapter sa palette aux conditions qu'on lui donne aussi.
Oui, de choisir des plantes résistantes.
Ouais, au sec. Mais il y en a plein. Il y en a énormément. Encore une fois, ça, c'est dans la discussion avec son pépiniériste, mais on trouve plein d'infos aussi là-dessus.
Oui, ça.
Mais on parlait des giroflées ou de la valériane, elles vont se perdre, ou même la rose trémière, elles vont se perdre dans des milieux très secs et très drainants. Mais ça peut être les santolines aussi. Il y a vraiment plein de variétés qui supportent ces sols-là.
Ok, trop intéressant. J'avais un dernier petit point spécifique parce que je vois que l'heure tourne et un dernier petit point spécifique. Je sais que tu avais évoqué le fait que ce soit intéressant de créer son jardin avant la construction d'un bâtiment.
Ah oui.
Alors nous, on parle d'éco-rénovation et d'éco-construction. Quand on est dans l'éco-construction, qu'on va construire sa maison, son lieu de vie, pourquoi ce serait plus pertinent de construire son jardin avant même d'imaginer sa maison?
Alors, ça dépend un peu ça dépend de plein de facteurs, mais quand on peut le faire, c'est intéressant. Donc par exemple, je prends le cas de figure de... tout simple, je prends deux cas de figure. Vous rénovez votre maison, vous y habitez pas avant un petit moment. Là, vous gagnez du temps, en fait, à faire votre jardin avant même de commencer à rénover la maison. Donc, on comprend, par exemple, si vous plantez des arbres fruitiers, une année de gagner, c'est toujours une année de gagner sur la fructification. Et après, par exemple, si on est sur un jardin de lotissement, on peut avoir ce cas de figure-là. Par exemple, on a l'implantation des haies. Si on sait que les engins de chantier vont pas aller dans cette zone-là, parce que des fois on est contraint aussi par le passage des engins quand on construit sa maison, mais si sur l'arrière de la maison je sais que les engins ne passent pas, là ça peut être hyper intéressant de commencer déjà à mettre en place sa haie avant même que la maison soit construite. Après, il faut bien discuter avec les entreprises, leur dire que vous avez planté quelque chose et qu'il ne faut pas qu'ils aillent pousser la terre ou mettre les gravats dans cet endroit du jardin. Mais c'est intéressant parce qu'on gagne du temps, quoi.
Ouais, c'est vraiment sur le gain de temps.
Sur le gain de temps.
Pour récupérer soit des fruits, soit sur le potager, soit sur la biodiversité qu'on veut faire vivre dans son lieu de vie. Ok. Et en fait, si j'avais encore une dernière petite question. Pour ceux qui vivent en appartement, est-ce que tu as des retours d'expérience sur comment peut-être s'engager dans des jardins participatifs, comment comment en fait trouver des petits moyens justement pour pouvoir faire vivre sa biodiversité, peut-être sur son balcon, soit dans des jardins participatifs.
Alors, sur le balcon, quand on a un petit balcon, c'est jouable. Enfin, je l'avais fait sans trop arroser, parce que vraiment, je suis pas. Déjà, j'ai la flemme hein, d'arroser, c'est voilà. Ça aide pas du coup, voilà. Mais sans avoir la flemme ou quoi, c'est faut vraiment être conscient de cette ressource en eau là qui est pas. Il faut vraiment la protéger. Et du coup, par exemple, moi, sur mon balcon, j'avais fait une jardinière en bois. J'avais mis, j'avais ramené de la terre et puis j'avais ramené de la feuille, un peu de bois mort et tout ça, des choses qui se décomposent dans ma jardinière. Et j'avais mis, de la capucine et de l'hypomée. Et puis j'avais essayé quelques tomates. Et ça avait pris, c'était la jungle. Donc, par exemple, capucine, hypomée, vous les aidez au démarrage, c'est des grimpantes ou des couvre-sols, les deux. Enfin, l'hypomée, c'est une grimpante et la capucine, c'est une couvre-sol, mais qui a tendance à grimper aussi. Je leur avais mis des tuteurs pour qu'elles grimpent dessus. Et, elles avaient, en une saison, en fait, du printemps jusqu'à l'automne, elles s'étaient vraiment, vraiment développées. Et, du coup, c'est, ou par exemple, vous mettez de la verveine de Buenos Aires, ou alors, vous mettez, des plantes comme, le géranium, enfin, le géranium macrorhizum, ou alors, la sauge arbustive. C'est des plantes qui vont demander peu d'eau, peu de terre, qui aiment ces milieux un peu durs, et qui vont, moi, j'étais au 8e étage, et j'avais, des abeilles qui venaient butiner, dans mes fleurs. Donc ça, sur le balcon, c'est jouable. Même les tomates cerises, vous pouvez tenter, ou les tomates, donc là, il faudra arroser, mais ça va, c'est gérable. La menthe aussi, ça se passe super bien. La verveine citronnelle, quand tout ce qui est aromate, c'est sympa. Puis pour vous, c'est un vrai bonheur aussi.
C'est le plaisir aussi de pouvoir dire de cuisiner ou d'avoir...
Complètement. Et après, sur les jardins partagés, bah oui, c'est des super... c'est des super lieux pour pouvoir donc partager ou familiaux. Partager, c'est une parcelle collective qu'on partage et qu'on cultive ensemble, on se partage la récolte. Et les jardins familiaux, c'est j'ai ma parcelle et j'ai un voisin en fait avec lequel je peux échanger, mais je suis vraiment sur ma parcelle. Et du coup, sur les jardins familiaux, on sait qu'il y a, selon certaines villes, il y a pas mal de listes d'attente. Donc, faut tenter le coup. Et puis, au bout d'un moment, vous aurez une parcelle. Et puis, sur les jardins partagés, on en retrouve dans les quartiers, souvent en bas de chez soi, même si c'est un kilomètre, ou un peu plus, mais c'est vraiment le plaisir d'aller jardiner, mettre ses mains dans la terre, plus que la récolte, même si c'est assez productif, hein. Mais c'est vraiment le plaisir de pouvoir voir toute cette biodiversité et de voir pousser les choses aussi. Donc ça, c'est vous regardez sur le site de votre ville ou de votre commune. Si on n'a pas, vous pouvez faire la demande directement à vos élus de mettre en place un petit espace jardin partagé. Il ne faut pas être tout seul à le porter. Il faut être au moins 5-6 sur un jardin partagé. Il faut bien dire aussi, si vous voulez mettre en place un jardin partagé, que c'est super le temps que ça fonctionne. Alors, il y a des communes, on en a fait un, puis ça a fonctionné 5 ans. C'est 5 ans de gagné, 5 ans de plaisir, 5 ans où on sait que ça a fonctionné. Et puis, si ça périclite, c'est pas grave, c'est du jardin, c'est pas un frein. Et puis, la parcelle, elle reprend une autre fonction. Et puis, si 3 ans après, on veut de nouveau retravailler cette parcelle-là, on le refait. Et c'est pareil pour les écoles. Quand on installe des petits potagers ou des petits espaces de jardinage, ça peut tenir 4 ans avec un projet pédagogique. Ça périclite 1 an, 2 ans. Et ça veut pas dire que c'est foutu et qu'on n'a pas réussi.
Qu'on peut plus rien faire derrière.
C'est du jardin.
Non, c'est sûr.
Il faut vraiment être dans cette optique-là.
Ok, que c'est renouvelable et en soi la terre n'est pas aseptisée et que ça peut reprendre.
Et puis que c'est
derrière.
Pas grave et que c'est pas un échec. On a fait quelque chose de super collectivement un temps. On a fait quelque chose pour X raisons, parce qu'il y a 10 000 raisons qu'il faut que ça peut péricliter. Ça périclite. Et hop, c'est reparti un peu plus loin ou un peu plus tard. Mais il n'y a rien de grave là-dedans, quoi.
Ok.
Ouais.
Mais dans tous les cas, ça reste des alternatives quand on ne peut pas avoir son jardin à soi.
Oui, et c'est des super alternatives. Et pour les enfants, c'est hyper important.
Oui,
eux, ils ont besoin d'avoir... C'est même un besoin fondamental pour les enfants d'avoir ce lien aux saisons et le lien à la terre et à l'observation de la biodiversité. Ça va les aider pour développer leur sens, pour expérimenter, pour la motricité fine, pour se relaxer aussi. Enfin, c'est hyper important.
Mmh. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Adélaïde.
Je t'en prie.
Merci beaucoup. Est-ce que, si c'est bon pour toi, on peut passer à la phase action?
Ouais.
Alors, action. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Overkill. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Overkill-Media. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Overkill? Nos éditeurs, eh ben, ils ont un projet de créer leur jardin respectueux de la biodiversité. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret? Une première question à se poser, des premiers conseils hyper concrets.
Ouais.
Quand ils veulent commencer.
Eh ben, du coup, l'hyper concret, bah, c'est peut-être d'acheter des livres. Ça, c'est hyper concret. Il y a quand même des livres qui sont hyper bien faits. Parce que, bah, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir un paysagiste pour vous aider dans cette action-là. Et puis, bah, j'en ai beaucoup parlé, mais je pense que la première chose de très concrète à faire, c'est de laisser un peu pousser son gazon. Donc, vous réglez votre hauteur de tonte, au lieu d'être à 3 cm, vous la mettez le plus haut possible sur votre tondeuse, c'est souvent 7-8 cm. Et vous allez voir qu'il va se passer plein de choses. Votre gazon, il va être plus résistant. Donc, vous aurez, il sera moins sec l'été. Et puis, il y a toute la palette végétale qui va s'épanouir. Donc, vous allez retrouver des pâquerettes, du pissenlit, de la carotte sauvage, de la renoncule, du trèfle. Et au lieu d'avoir juste un mélange d'herbes, de graminées, si vous laissez faire un peu ça, il va déjà se passer quelque chose en termes de milieu et de biodive juste avec cette action-là. Et donc aussi de laisser la petite zone de friche. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire des petits massifs de fleurs et puis la palette arbustive qui est importante aussi.
Ok. Ok, ok. Donc, d'essayer de prendre vraiment tous ces habitats et ces environnements qu'on a parlé d'ailleurs juste au-dessus, ouais, et de privilégier et de favoriser un peu ça,
oui,
en première action.
Remonter la hauteur de tente. Vous allez voir, ça va
d'abord
changer
la hauteur de
tente du jardin.
D'accord. Question plus personnelle, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton Overkill idéal?
Ouais, alors bah mon Overkill idéal, c'est mon jardin. C'est déjà le fait que j'ai la chance, moi, d'avoir un jardin. Et du coup, c'est un espace qui est nourricier, qui est frais. On voit aujourd'hui, c'est hyper important, la notion de fraîcheur. Donc, c'est accueillant à la fois pour la biodiversité, mais pour ma famille et mes amis. Il y a une notion artistique aussi qui est importante dans le jardin. Parce que c'est vraiment le lieu... Le jardin, c'est le lieu où on peut exprimer son petit monde à soi. Avec 3 francs 6 sous, on peut faire de la récup, on peut chiner des choses. Voilà. Donc, il y a cette dimension artistique qui est importante. C'est un lieu de récupération. On peut récupérer de la pierre, du bois, des dalles de béton. On peut faire vraiment plein de choses en récup. Et puis, c'est un lieu dans lequel on peut expérimenter et se tromper. Et ce qu'on disait tout à l'heure, au jardin, c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que on regarde les choses se faire saison après saison. Et puis, bah, quand on s'est planté à un endroit, on refait un autre endroit et puis c'est pas très grave.
Ok, oui, il y a pas cette notion. Il y a cette notion aussi un peu de patience aussi, ouais, et de lenteur qui est belle aussi et un peu poétique, je trouve. Super, si tu avais un mot pour définir ton Overkill, ce serait quoi?
Ah, c'était en un mot, j'en avais mis plein. Et ben mon Overkill, c'est en fait mon Overkill, c'est la promesse.
Ok.
C'est la promesse des fruits et des fleurs. C'est le bonheur en fait de se dire qu'à chaque saison, au début du printemps, tout ce qu'on a mis en œuvre ou tout l'accompagnement qu'on a fait auparavant, c'est la promesse de fleurs ou de fruits ou d'insectes qui vont arriver ou de la petite faune.
Ok, c'est très joliment dit. Et du coup, tu disais en conseil hyper concret qu'il y avait des livres.
Oui.
Peut-être d'acheter des livres. Est-ce que tu as des ressources,
ouais,
pour s'informer sur le jardin au naturel, sur comment construire cette biodiversité? Que ce soit podcast, personne.
J'ai choisi un Instagram que je trouve hyper chouette. C'est okay. Jardin Bio BZH. Jardin Bio, okay, BZH, c'est super ce qu'il propose. Et en livre, j'en ai mis 2. Donc, moi, j'ai ma Bible qui est le guide Terre vivante de aménager et fleurir son jardin au naturel.
Ok.
Donc, c'est de Brigitte Lapousse, de Jean et Denis Pépin. Il est génial. Okay. Vous avez tout dedans, en fait. Pas à pas, vous allez tout retrouver. Très concret. Et puis, il y a le Jardin des Utopies, l'art de cultiver son univers de Adrien Lanier, qui est super aussi. Alors, c'est des livres qui sont écrits par des Bretons, parce que Denis Pépin, il est rennais. Et Adrien Lanier, il a son jardin du côté de Fougères. Mais ça s'applique sur l'ensemble de la France. Et avec ces deux bouquins-là, vous êtes parés pour faire des choses super.
Déjà, en plus de cet épisode de podcast, vous pouvez tout réaliser.
Ouais, vraiment. C'est des guides parfaits. C'est parfait.
Trop bien. Bah, merci beaucoup, Adélaïde. On touche à la fin.
Merci.
Où est-ce qu'on peut te retrouver
Oui.
Si on cherche à voir un petit peu ce que tu fais.
Alors, sur le site internet de l'entreprise, donc folkpaysage.fr, je crois. Ouais. www.folkpaysage.fr.
Ça marche.
Sur internet.
Je mettrai ça en description. Je retrouverai. Il n'y a pas de souci. Et ben merci à toi. Merci pour ce moment de douceur au jardin. Ça fait du bien aussi d'en parler. Est-ce que ça fait partie du bercail? Et merci à toi. Et je souhaite à tous nos auditeurs à bientôt dans vos bercails.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les trois choses principales à retenir. Bon, je me suis fait avoir dès le début, mais le lierre est un allié pour les arbres et non pas un parasite. Il protège les arbres des variations de température, fournit de la nourriture aux insectes et aux oiseaux et soutient la biodiversité en général. Donc, laissez le lierre grimper. Ensuite, pour améliorer la biodiversité de votre jardin, envisagez de créer une mare, même dans un espace restreint. Les mares offrent un habitat essentiel pour les amphibiens, les libellules et les pollinisateurs, tout en créant des corridors pour la faune. Et enfin, pour un jardin respectueux de la biodiversité, multipliez les habitats en laissant une zone en friche, en utilisant par exemple le paillage, en plantant des variétés adaptées et en créant des habitats pour les insectes et la faune. On en a cité quelques-uns, dans cet épisode vous aurez de quoi faire. Et n'oubliez pas de choisir des plantes adaptées à votre région pour réduire l'arrosage et préserver l'écosystème. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier appel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.